France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, Elon Musk. Conseiller le plus influent du président américain, Elon Musk s'est imposé comme un personnage central de ce début de second mandat de Donald Trump. Au point que certains n'hésitent plus à l'appeler President Musk, président. À la tête d'un ministère au contour juridique opaque, il est aux manettes pour mener son nouveau combat, la destruction de ce qu'il nomme lui-même le fléau de la bureaucratie. Une attaque en règle contre toute forme de régulation, genre le problème c'est l'État, en droite ligne de la doctrine Reagan, soit dit en passant. Musk, icône de la tech, s'est mué en idole de toute une partie de l'Amérique réactionnaire. Autrefois adulé pour ses entreprises innovantes et ambitieuses, il est aujourd'hui adulé pour ses frasques et ses outrances qui semblent n'avoir plus aucune limite. À ceci près qu'avec les décisions de Donald Trump sur le commerce international, ses droits de douane exorbitants, il se pourrait bien qu'une grosse entreprise en fasse les frais, celle d'Elon Musk, qui deviendrait auquel cas l'arroseur arrosé. Notre invité aujourd'hui, Corentin Célin, professeur agrégé d'histoire en classe préparatoire. Il est un observateur avisé de la vie politique américaine qu'il suit notamment pour le média Les Jours. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire, Gaspard Valu, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Denante, réalisation Étienne Bertin.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
Vendredi 21 février 2025, Maryland, États-Unis. Il y a foule ce jour-là dans l'immense salle du National Harbor, un important centre de conférence situé à quelques kilomètres de Washington. Ils sont des milliers à assister au grand rassemblement annuel des conservateurs américains. Mais cette année, la convention a une saveur particulière. Un mois seulement après l'investiture de Donald Trump à la Maison-Blanche, l'ambiance est à la fête. Les invités de marque défilent sur l'imposante scène décorée de grands drapeaux américains. On y entend des personnalités de l'extrême droite européenne prendre la parole. Il y a là le Britannique Nigel Farage et l'Espagnol Santiago Abascal, le leader du parti populiste Vox. Plus tard, c'est Steve Bannon qui se présente devant la foule. Ce soutien de la première heure de Donald Trump y prononce un discours victorieux et conclut son intervention par un geste que beaucoup d'observateurs qualifient de salut nazi. Le vice-président Dede Vance, ce personnage qui s'est montré si ténu avec Zelensky à la Maison-Blanche il y a un mois, est lui aussi présent. Mais ce ne sont pas eux les stars de la journée. Non, il y a un homme que tout le monde attend. Un personnage qui s'est imposé en quelques mois seulement comme un acteur clé de la vie politique américaine, Elon Musk.
The chainsaw for bureaucracy. Chainsaw.
À la tête du Dodge, le nouveau ministère de l'efficacité gouvernementale, l'homme le plus riche du monde entre sur scène comme une rockstar, avec lunettes de soleil sur le nez, casquette magasse sur la tête et chaîne en or autour du cou. Après avoir reçu une tronçonneuse en cadeau du président argentin Javier Milei, oui, une tronçonneuse, il prend la parole.
Je vous aime aussi. Laissez-moi vous demander ceci. Il y a un an, si quelqu'un vous avait dit que vous seriez ici et que vous travailleriez avec le président pour détruire l'administration ou le marais, appelez ça comme vous voulez, vous l'auriez cru ?
Non.
But it's cool.
Mais c'est cool.
This is awesome.
Franchement, c'est génial.
I mean, we're trying to.
Vous savez, on essaye de faire des choses bien.
But also, like, you know, have a good time doing it.
Et de passer du bon temps en les faisant.
And freedom of speech.
La liberté d'expression.
Having, you know, having fun again.
On va se marrer.
It seems like.
J'ai l'impression qu'on va passer un bon moment.
Adulé par toute une partie de l'Amérique pour son entreprise de destruction de l'administration. Comment Elon Musk est-il parvenu à s'imposer comme le conseiller le plus proche du président et l'un des hommes les plus puissants du monde capable de démanteler l'État américain? Eh bien, comme souvent, pour le comprendre, il faut revenir en arrière. Petit génie de l'informatique élevé par son père en Afrique du Sud, Elon Musk devient millionnaire à la fin des années 90 grâce à la vente de sa première entreprise Zip2, sorte d'ancêtre de Google Maps. Deux ans plus tard, il empoche 180 millions de dollars lorsqu'avec ses associés, il vend la start-up PayPal au géant eBay pour 1,5 milliard de dollars. Mais Musk ne veut pas se contenter d'être un millionnaire de la Silicon Valley parmi d'autres. Non, le jeune homme de 31 ans est un ambitieux. Alors il prend son argent et il l'investit. Avec 50 millions, il s'associe au créateur d'une jeune entreprise automobile baptisée Tesla. Dans le pays de la voiture et du diesel, il fait le pari de l'électrique avec le rêve de transformer le marché automobile mondial. Point sur lequel, il faut l'avouer, il a réussi. Passionné par la conquête de l'espace, il veut aussi révolutionner une industrie spatiale morose. Lui, qui rêve de voir l'homme coloniser Mars, décide de créer les toutes premières fusées réutilisables de l'histoire. Là encore, il sort le chéquier et SpaceX est né. Mais les débuts sont difficiles. Avec un unique modèle à 1 million de dollars l'unité, Tesla peine à trouver des clients. SpaceX, elle, enchaîne les échecs. Et si le fantasque chef d'entreprise n'hésite pas à diffuser en ligne les vidéos des crashs de ses fusées, il sait qu'il est au pied du mur. Mais la chance lui sourit. À la fin de l'année 2008, quand la NASA, enfin convaincue des capacités de sa fusée Falcon, signe un gigantesque contrat de 1,6 milliard de dollars avec SpaceX. L'horizon se dégage et Elon Musk s'investit corps et âme dans ses entreprises. En 2012, après avoir réussi à évincer le fondateur de Tesla, il lance le premier modèle grand public de la marque, la Tesla Model S. Le succès est immédiat. Trois ans plus tard, SpaceX parvient pour la première fois à faire atterrir l'une de ses fusées. Des images qui font le tour du monde.
Une boule de feu qui redescend lentement vers le sol. Voici le premier étage de la fusée Falcon 9 qui se pose, apparemment intacte, après avoir expédié plusieurs satellites en orbite. Dans la salle de contrôle, l'équipe de la société SpaceX éclate de joie. L'exploit est de taille, car normalement cette partie se désintègre après le décollage. Ici, des moteurs spéciaux ont permis de freiner la chute.
3, 2, 1, 0.
11 minutes plus tôt, la fusée part pour 200 km d'ascension. Elle se sépare ensuite de son premier étage, qui retombe vers le sol. Pendant ce temps, comme prévu, la fusée largue ses 11 satellites de télécommunication en orbite. La récupération de ce premier étage, c'est plusieurs millions d'euros d'économie, car il sera réutilisé pour une prochaine mission. Selon SpaceX, le coût d'un lancement pourrait être divisé par 3 grâce à cette technique.
Homme d'affaires à succès, Elon Musk intègre le club très fermé des multimilliardaires de la Silicon Valley. Mais là où certains se montrent discrets, lui s'impose comme un personnage médiatique à part entière. De plus en plus présent sur les ondes, dans les journaux, partout, il entretient sa légende. Celui d'un entrepreneur investi d'une grande mission, sauver l'humanité grâce aux progrès technologiques. Il raconte volontiers son arrivée sur les bancs de la prestigieuse université de Stanford, puis son abandon, deux jours plus tard, pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Il parle aussi avec enthousiasme de cette idée de fusée réutilisable, survenue comme une révélation lors d'un vol entre Moscou et San Francisco. Musk s'est transformé en icône de la tech. Pour certains, il est même devenu un gourou. L'élan d'Elon se traduit par des communautés de fans qui se multiplient partout à travers le monde. Tous adulent celui qui est désormais comparé à Iron Man, ce super-héros milliardaire adoré de l'Amérique. Neuralink, The Boring Company, OpenAI, Hyperloop, chacun de ces projets suscite l'excitation. Les vidéos de youtubeurs visitant les usines géantes de Tesla font des dizaines de millions de vues. Et lorsque Musk détaille avec aplomb son plan pour coloniser Mars, tous applaudissent. Peu importe les critiques des scientifiques qui ne croient pas un instant son idée de rendre la planète rouge habitable. Tant qu'il parle, Elon est applaudi. Peu importe également les frasques de l'homme d'affaires qui multiplient les messages intempestifs sur le réseau social Twitter, où il est omniprésent et qu'il finira par acheter. Enfin, peu importe les critiques sur son management agressif, voire toxique, ou encore son comportement erratique, comme lorsqu'il fuma un joint sur le plateau du podcasteur favori de la droite américaine, Joe Rogan. Rien ne semble ébranler son aura. Quand en 2016, l'Amérique doit se choisir un nouveau président, Elon Musk, comme les autres géants d'Internet, Mark Zuckerberg de Facebook ou Jeff Bezos d'Amazon, soutient ouvertement Hillary Clinton. Proche du camp démocrate et de Barack Obama, Musk et les entrepreneurs de la Silicon Valley prennent leur distance avec le candidat surprise du Parti républicain, le très réactionnaire Donald Trump. Une prise de position qu'il confirme en octobre 2016 lors d'une interview qu'il accorde à la chaîne CNBC.
Honnêtement, je pense que les mesures économiques d'Hillary, et particulièrement ces mesures environnementales, sont les bonnes. Mais je pense aussi que ce n'est pas le moment le plus brillant de notre démocratie en règle générale.
Il y a un an, vous disiez que vous n'aviez pas un bon pressentiment sur l'élection, mais que vous espériez que Trump ne soit pas investi par les Républicains. C'est toujours votre sentiment aujourd'hui alors qu'il est aux portes de la Maison-Blanche ?
Je suis encore plus sûr qu'il n'est probablement pas la bonne personne pour le poste. Il n'a pas l'air d'avoir la bonne personnalité pour représenter les États-Unis.
Mais le fondateur de SpaceX est un pragmatique. Au début de l'année 2017, il accepte de rejoindre le tout nouveau conseil économique consultatif créé par le vainqueur surprise de l'élection présidentielle. Mais le flirt ne dure pas. Les positions radicales de Donald Trump sur les questions environnementales et sa volonté affichée de sortir des accords de Paris sur le climat le poussent à se mettre en retrait. Mais ce n'est qu'une question de temps avant qu'Elon Musk et Donald Trump s'unissent et se réunissent à nouveau.
C'est le pays dans lequel le Covid-19 se propage le plus rapidement. En Corée du Sud, file d'attente interminable aujourd'hui pour acheter un masque. Plus de 2000 personnes ont déjà été infectées. Plus de 50 pays sont désormais touchés par le virus. Parmi lesquels, l'Iran, qui compte officiellement 34 personnes décédées. Décision rarissime, la prière du vendredi a été annulée. Le Nigeria, lui, vient d'enregistrer le premier cas de coronavirus en Afrique subsaharienne. Au Japon, où le Diamond Princess est amarré depuis 3 semaines en quarantaine, on a appris aujourd'hui la mort d'un touriste britannique, ce qui porte à 6 le nombre de victimes sur ce bateau de croisière. 700 personnes restent contaminées. En Chine, enfin, les chauffeurs de taxi doivent user du système D pour continuer à travailler. À Pékin, des bâches transparentes les séparent désormais de leurs clients.
L'émergence soudaine de la pandémie de Covid-19 au début de l'année 2020 plonge le monde dans l'inconnu. Partout sur la planète, les confinements se généralisent. Aux États-Unis comme ailleurs, la crise sanitaire, sans précédent, et les dizaines de milliers de morts mettent le pays à l'arrêt. En Californie, là où les géants de la Silicon Valley sont implantés, les autorités imposent aux 40 millions de résidents de rester chez eux. Les bureaux et les usines sont fermés, peu importe les conséquences économiques. Le Covid, qui a permis également de montrer toute l'étendue de la surface intellectuelle de Donald Trump, lorsqu'il a déclaré publiquement, par exemple, que pour tuer le virus, il serait bon de boire de la Javel. Mais Elon Musk ne voit pas les choses de la même manière. Et là, nous sommes sur le terrain économique, pas sanitaire. Comme à son habitude, c'est grâce à Twitter qu'il communique sa pensée à ses 34 millions de followers. Au printemps 2020, ses messages sur ce réseau dit social montrent un changement de ton chez celui qui était jusque-là habitué à poster des vidéos de fusée ou des messages sur le ton humoristique. Derrière l'écran de son smartphone, en fait et en vérité, Musk fulmine. Il tweet frénétiquement « Libérez l'Amérique, mettez fin à cet emprisonnement forcé ». Mais rien n'y fait. Les responsables californiens sont inflexibles. Les 20 000 employés de Tesla doivent rester chez eux. Lors d'une interview téléphonique, Musk affirme qu'il s'agit de la plus grande attaque contre les droits constitutionnels des citoyens américains, qualifiant le confinement de mesure fasciste. Le médiatique patron se fait aussi le relais de théories complotistes, affirmant que les hôpitaux californiens sont à moitié vides et que la pandémie devrait prendre fin en un mois maximum. Invité sur le plateau du podcasteur Joe Rogan, Elon Musk précise sa pensée.
Quand vous dites que la civilisation est fragile, vous vous référez à cette merde de Covid-19 ?
C'est quoi ça ? Je connais pas.
C'est ce truc-là.
En général, je trouve qu'on devrait se préoccuper de tout ce qui constitue une atteinte grave à nos libertés individuelles.
Oui.
Si quelqu'un veut rester à la maison, qu'il reste à la maison. Mais il ne devrait pas y être contraint.
Excédé, Musk annonce dans un nouveau tweet son intention de déménager le siège social de son entreprise au Texas. Un État dirigé par un républicain beaucoup plus enclin à le satisfaire. Quelques jours plus tard, dans un nouveau message, il dit retourner au travail et ordonne à ses ouvriers de faire de même. Et il affirme que s'il faut arrêter quelqu'un, ce doit être lui. Dans la foulée, Donald Trump tweet, lui aussi. La Californie doit laisser Elon Musk et Tesla ouvrir leurs usines, maintenant. Un soutien inattendu, auquel Musk répond par un « merci ». Message liké par des centaines de milliers de personnes. La vindicte médiatique porte ses fruits. À la fin du mois de mai, les autorités californiennes cèdent et autorisent Tesla à rouvrir son usine. On aura bien assez de Javel en cas de contamination. Quoi qu'il en soit, le virage opéré par Elon Musk semble définitif. Dans un tweet énigmatique, il affirme choisir la pilule rouge. Une double référence, selon son biographe Walter Isaacson, qui témoigne dans le documentaire Le Monde selon Elon Musk.
Lorsqu'il tweet prenait la pilule rouge, une réplique du film Matrix, il nous dit de remettre en cause une idéologie qui a pu nous être imposée, de tenter de trouver la vérité vraie.
All I'm offering is the truth, nothing more.
Mais c'était surtout un signe qu'il avait rejoint le camp de la droite complotiste. Des gens qui ont le sentiment que les médias et l'establishment nous imposent leur version des faits.
Un virage vers le camp républicain qui reste pourtant discret en cette année électorale où le président sortant doit affronter Joe Biden. Alors qu'il avait soutenu Hillary Clinton 4 ans plus tôt, Musk se garde bien cette fois de se prononcer pour l'un ou l'autre des candidats. Mais son discours en ligne est de plus en plus orienté. Toujours sur son réseau social favori, le patron de SpaceX et de Tesla continue de dénoncer les menaces contre les libertés individuelles et la pensée qu'il pense unique. Au printemps, il s'attaque aux autres géants de la tech et fustige la Silicon devenue selon lui l'arbitre moral du monde. Et il s'en prend aussi aux politiques de modération mises en place sur les différents réseaux sociaux suite aux ingérences russes lors de la présidentielle de 2016. Des mesures qui, selon lui, sont des atteintes graves à la liberté d'expression pourtant garantie, il le rappelle, par le premier amendement de la Constitution américaine. Il soutient également Donald Trump quand ses messages sont signalés comme faux par les équipes de Twitter durant les derniers instants de la campagne électorale, quelques heures avant la victoire de Joe Biden. En janvier 2021, alors que l'Amérique vacille dans le sillage des violentes émeutes survenues lors de l'assaut du Capitole par des partisans de Donald Trump, Elon Musk condamne avec virulence la suspension du compte Twitter de l'ancien président. La rupture avec le camp démocrate et le nouveau président Joe Biden est définitivement consommée le 12 août 2021. Ce jour-là, les patrons des plus grands constructeurs automobiles américains sont conviés dans les jardins de la Maison-Blanche pour une réunion portant sur l'avenir de la voiture électrique. Eh bien, le dirigeant de Tesla, pourtant leader du marché, n'est pas convié. Un camouflet pour Elon Musk qui ne cache pas son amertume. Pride is the devil. Think it got a hold on me. Pride is the devil. And left so many RIP. Pride is the devil. Think it got a hold on me. Pride is the devil. Yeah. Terrified, paranoid, I put you over everything.
fill the void, and when you're gone, will I have anything, or will I be destroyed? Terrified, paranoid, I put you over everything to fill the void, and when you're gone, will I have anything, or will I be destroyed? Yeah. Bright lights pass me in the city, it's emergency. I'm thankful cause I made it past my 30s, no one murdered me. Still remember vividly the nigga that pulled a gun on me. I'm petrified but moving like I got no sense of urgency. Pride make a nigga act way harder than he really be. Pride hide the shame of city, cut off all utilities. Pride hide the pain of growing up inhaling poverty. Pride make a nigga feel a way that you unfollow me. Make a nigga flash a thousand like he hit the lottery. Make a baby mama make shit harder than it gotta be. Make you have to take the bitch to court to see your prodigy. Make you have to use your last resort and pull a robbery. Pride be the reason for the family dichotomy. Got uncles and some aunties that's too proud to give apology. Slowly realizing what the root of all my problems be. It got me feeling different when somebody said he proud of me. Pride is the devil. I think it got a hold on me. Pride is the devil. And it left so many R.I.P. Pride is the devil. I think it got a hold on me. Pride is the devil. Yeah. Terrified, paranoid, I put you over everything to fill the void. And when you're gone, will I have anything or will I be destroyed? Terrified, paranoid, I put you over everything to fill the void. And when you're gone, will I have anything or will I be destroyed? Yeah. Much money to count, what's the amount? 10 of a bounce. I gotta pay a nigga to add it up, then pay somebody to make sure whatever amount he say, I'm bagging up. Got racks on racks, I'm racking up, stacking up. You reaching or acting up? Pride is the devil. And I think it got a hold on me. Pride is the devil. And it left so many R.I.P. Pride is the devil. And I think it got a hold on me. Pride is the devil.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, Elon Musk.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
La rupture consommée avec le camp démocrate et les polémiques liées à la crise sanitaire n'ont pas affecté la santé économique de celui qui s'affiche désormais en héros de toute une frange de l'ultra-droite américaine. En 2021, la fortune d'Elon Musk dépasse les 300 milliards de dollars, 342 aujourd'hui, faisant de lui l'homme le plus riche de la planète. En décembre, le Time Magazine le sacre personnalité de l'année. Plus puissant que jamais, Musk se sent investi d'une nouvelle mission, sauver la démocratie américaine, du moins la vision qu'il en a. Et pour y parvenir, il a une idée derrière la tête.
Elon Musk est donc déterminé à racheter intégralement l'un des plus importants réseaux sociaux du monde. J'ai nommé Twitter et ses 436 millions d'utilisateurs dans le monde. Bonsoir Sébastien Paour.
Bonsoir Sébastien Legénie.
Elon Musk était déjà actionnaire de Twitter, mais là, il veut en prendre le contrôle à 100%.
Ouais, 43,4 milliards de dollars en cash. L'offre est non négociable, précise le milliardaire dans son courrier envoyé au président du réseau social à l'oiseau bleu. Elon Musk propose de mettre la main sur le groupe californien. Une semaine après y avoir fait son entrée, il a acheté plus de 73 millions d'actions la semaine dernière. Il a ensuite refusé d'intégrer le conseil d'administration, conseil qui dit aujourd'hui qu'il va examiner son offre avec attention.
Le 27 octobre 2022, après des mois d'un interminable feuilleton médiatico-financier, Elon Musk devient l'unique propriétaire de l'un des réseaux sociaux les plus populaires de la planète. Il a maintenant les mains libres. Et il veut faire de Twitter un outil au service de ses idées. Et il ne va pas se priver. Dès son arrivée dans l'entreprise, il remercie l'intégralité des dirigeants. Après avoir envoyé 50% des effectifs, il envoie un mail aux employés restants. L'intitulé du message, extrêmement hardcore, comme ça c'est clair. Il y détaille sa vision d'une plateforme enfin rentable et tournée vers la liberté d'expression, dit-il. Fini donc la modération. Il y développe aussi sa vision d'un environnement de travail intense, à la manière d'une jeune start-up. 40 heures de travail par semaine minimum, fin du télétravail, exigence de résultats immédiats, pas de place pour les erreurs sous peine de renvoi. Le ton est donné. Sur la plateforme, l'effet Musk se fait rapidement sentir. Certification payante et disparition des règles de modération fleurissent. Le nouveau patron consulte aussi son audience sur différents sujets. Le 18 novembre, il publie un sondage. Faut-il rétablir le compte de Donald Trump ? 24 heures et 15 millions de votes plus tard, les résultats tombent. 51,8% de oui. Le lendemain, le compte de l'ancien président aux 87 millions d'abonnés réapparaît après 22 mois d'absence. Dans les semaines qui suivent, ce sont d'autres comptes, bannis aussi après les émeutes du 6 janvier 2021, qui sont rétablis. Une transformation qui s'achève en juillet 2023, quand Twitter devient officiellement X. Le petit oiseau bleu qui a marqué l'histoire d'Internet disparaît.
C'est un petit oiseau bleu qu'on avait apprivoisé, celui qui représentait Twitter depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, car aujourd'hui signe un changement de nom et de logo pour le réseau social qui s'appelle désormais X, tout simplement, un symbole qui disparaît. Romain Biteau.
Il avait semé des petits cailloux blancs dès la reprise de Twitter en octobre 2022. X, une lettre qui ne vient pas de nulle part. En avril 2023, le fantasque milliardaire remplace Twitter Incorporation, la structure propriétaire de la plateforme, par X Corp, et sa première entreprise s'appelait X.com, une banque en ligne devenue PayPal avant de disparaître.
Romain Biteau.
Une transformation marquée aussi par la modification des algorithmes de la plateforme. Ce sont eux qui déterminent ce qui s'apparente à la ligne éditoriale du réseau social. Résultat, les contenus clivants et les comptes autrefois invisibilisés en raison de propos polémiques et controversés sont maintenant ceux qui apparaissent en haut de page. Toujours plus suivi, Elon Musk continue de publier frénétiquement. Lui, qui refuse désormais toute interview avec les médias traditionnels, dispense sa pensée sur son réseau personnel. Sans le fil pourtant salvateur des journalistes, tout y passe, évidemment. Politique, économie ou sujet de société, Musk donne son avis sur tout, sans débat contradictoire. Et plus le temps passe, plus sa pensée s'aligne avec celle du revenant Donald Trump, engagé maintenant dans la campagne présidentielle pour l'élection qui se profile à l'automne 2024. Ainsi, les partisans de Trump applaudissent-ils quand Musk, père de 12 enfants, dénonce le virus woke qui a selon lui tué son fils ? En réalité, l'homme d'affaires n'accepte pas la transition de genre de sa fille née dans un corps de garçon. Mais malgré le rapprochement idéologique, Musk, qui avait un temps évoqué un soutien à un autre candidat républicain, évite encore de prendre position. Il faudra attendre le 13 juillet 2024 et un événement qui va marquer la campagne électorale pour que le patron de X entre en scène.
France Inter.
Take a look at what happened.
La confusion, décrit la stupeur. Trump en plein meeting en Pennsylvanie, victime d'une tentative d'assassinat cette nuit. L'ancien président américain rapidement exfiltré par les services secrets. Bonjour Sébastien Paour.
Bonjour à tous.
Ces images de violence marquent un tournant dans la campagne américaine.
Oui, un tournant dans la campagne et une image pour l'histoire, celle de cet ancien président, le visage en sang, le poing levé, qui serre la mâchoire et qui crie à ses partisans à trois reprises « Fight, battez-vous !» alors qu'on vient de lui tirer dessus, une balle a traversé le haut de son oreille, sa vie est peut-être encore en danger, mais lui veut tirer profit du moment, il veut sortir encore plus fort de ses coups de feu, si l'on peut dire, et il en sortira peut-être renforcé, l'avenir nous le dira.
Oui, on appelle ça une aubaine. Les images du candidat oreille en sang et poing levé galvanisent les sympathisants républicains. Pensez donc, cible manquée d'un tueur, rien de mieux pour un candidat ainsi héroïsé. Pour Elon Musk, l'événement provoque un déclic. Lui qui se tenait jusque-là à l'écart de la campagne présidentielle décide qu'il est temps de s'engager. Dans cette violente bataille qui oppose Donald Trump à Kamala Harris, venu remplacer un Joe Biden moribond, il a fait son choix. Il a bien pris la pilule rouge. Et cette fois, il n'est plus question d'un soutien discret. À quelques semaines du vote, les sondages donnent les deux candidats au coude à coude. Alors Elon Musk s'engage totalement en faveur de l'ancien président. Du haut de son immense fortune, il contribue financièrement à la campagne. En octobre, il lance une retentissante tombola dans les États clés, là où l'élection se joue. Il promet ainsi de distribuer 1 million de dollars par jour aux citoyens qui ont signé une pétition en ligne. L'initiative, vivement critiquée par le camp démocrate, évidemment, mobilise des centaines de milliers de personnes. Musk donne aussi de sa personne. Présent à tous les grands meetings de Donald Trump, il affiche sa proximité avec le candidat. Avec son grand sourire et son t-shirt Occupy Mars, il promet d'aider le futur président en cas de victoire. Son cheval de bataille, une réduction drastique des dépenses publiques. Dans les dernières semaines de la campagne, Musk s'installe à Mar-a-Lago, la luxueuse demeure de Donald Trump en Floride. L'icône de l'Amérique réactionnaire et de tous les rendez-vous, et donne son avis sur tous les sujets. Désormais proche parmi les proches, Musk X, le prénom de l'un des petits derniers de ses 14 enfants, né sous X donc, figure même sur la photo de la famille Trump, prise le 5 novembre au soir, alors que l'Amérique attend les résultats de l'élection. Lorsque dans la nuit du 6 novembre, Donald Trump bat tous les pronostics et remporte largement l'élection face à la candidate démocrate, c'est bien Elon Musk qu'il remercie en premier lors de son discours de victoire devant ses partisans.
A star is born, Elon.
Une star est née, Elon.
Now he is.
C'est un mec incroyable. On était ensemble ce soir. Il a lancé une fusée il y a 2 semaines, vous savez. Et j'ai vu cette fusée décoller. Puis je l'ai vu redescendre avec ses moteurs en feu. Elle est redescendue si doucement, attrapée par ses grands bras métalliques, comme quand on tient un bébé dans ses bras la nuit. Et j'ai appelé Elon et je lui ai dit, Elon, c'était toi ? Il a dit oui. Je lui ai demandé qui d'autre peut faire ça. Est-ce que les Russes y arrivent? Non. Est-ce que les Chinois y arrivent? Non. Je lui ai dit c'est pour ça que je t'aime, Elon. C'est un personnage, vous savez, un mec spécial, c'est un super génie. Il faut qu'on protège nos génies. On n'en a pas tant que ça.
Comme promis, Elon Musk ne s'efface pas une fois la victoire de Trump acquise. Véritable star de la campagne, il est omniprésent dans le bureau ovale. Dans ses meetings, il est acclamé par les électeurs républicains qui se délectent de ses frasques. Peu importe les dérapages, comme lorsque le 20 janvier dernier, sur la scène du Grand Rassemblement, célébrant la prise de position de fonction du président, il brandit son bras droit vers la foule. Un geste que beaucoup qualifient de salut nazi. Mais Elon Musk est intouchable. Le jour même, Donald Trump confirme sa nomination à la tête d'un super ministère de l'efficacité gouvernementale. Une nouvelle institution fédérale, baptisée Doge, en clin d'œil à la crypto-monnaie favorite du patron de X. Un nom qui cache en réalité une machine à broyer à l'administration américaine. Et plus encore, pour s'assurer d'avoir les mains libres, Elon Musk bénéficie d'un statut à part au sein du gouvernement. Officiellement nommé comme conseiller spécial du président pour une durée limitée, il n'a de compte à rendre à personne, sinon à Donald Trump. Là où les autres responsables doivent obtenir une validation du Sénat, lui en est dispensé. Son ministère dispose d'un statut à part, lui octroyant une totale liberté de mouvement. Alors Musk n'attend pas pour lancer les grandes manœuvres. Dans les heures qui suivent sa prise de fonction, des dizaines de très jeunes employés venus de Tesla, SpaceX ou X débarquent dans des dizaines de bâtiments fédéraux. Armés de leurs ordinateurs, ils prennent le contrôle des serveurs informatiques de l'administration, font main basse sur les logiciels de paye et s'emparent de millions de données personnelles. Puis ce sont des centaines de milliers de mails qui sont envoyés aux fonctionnaires. Presque identiques aux messages envoyés lors de sa prise de contrôle de Twitter, Musk les invite à démissionner ou à accepter une toute nouvelle façon de fonctionner qu'il décrit lui-même comme extrême. Rapidement, les premiers licenciements interviennent. Des milliers de fonctionnaires de l'Agence américaine pour le développement, du ministère de la Santé ou de l'agence en charge de la réglementation aérienne sont priés de faire leur carton. Les coupes sont massives, quitte à mettre le pays en danger.
Aux États-Unis, l'administration Trump fait machine arrière, Catherine.
Le gouvernement tente de réembaucher des employés de la sécurité nucléaire qu'il avait licenciés la semaine dernière. Plus de 300 personnes, selon le New York Times. Ce revirement illustre, selon le Time Magazine, les coupes aveugles faites dans l'administration fédérale à la demande de Donald Trump et d'Elon Musk. La National Nuclear Security assure la maintenance, la remise à neuf et la sécurité de plus de 3000 ogives nucléaires aux États-Unis, indique le New York Times. Le licenciement des employés de la semaine dernière fait donc peser des questions sur la sécurité nationale.
Mais Elon Musk assume. Il fera des erreurs et alors, c'est pour le bien de l'Amérique. Alors peu importe les conflits d'intérêts évidents pour celui qui est à la fois à la tête de SpaceX, le principal partenaire de la NASA. Musk se défend de toute intervention, quand dans le même temps, il affirme vouloir désorbiter l'ISS avec 3 ans d'avance et concentrer tous les efforts de l'Amérique vers la conquête de Mars, son rêve de toujours. Supposé se concentrer sur les questions internes propres à son ministère, Elon Musk ne compte pas s'arrêter là. Celui que beaucoup appellent ironiquement « président Musk » intervient également sur la scène internationale. Et il n'hésite plus à soutenir des figures de l'extrême droite européenne, comme le leader de l'AFD en Allemagne ou le militant d'extrême droite Tommy Robinson au Royaume-Uni. Sauf que les décisions radicales prises par Donald Trump en matière de droits de douane pénalisent aussi Tesla et ses millions de voitures exportées à travers le monde. Malaise. Et chaque jour, désormais, semble apporter son lot d'amertume. Tiens, pas plus tard que lundi, Musk traitait carrément le conseiller au commerce de Donald Trump de crétin. Ça promet.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, Elon Musk, dont nous parlons avec notre invité Corentin Célin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur agrégé d'histoire en classe préparatoire. Vous êtes un observateur avisé de la vie politique américaine. Vous la suivez notamment pour le média Les Jours. Alors, on a vu l'évolution d'Elon Musk qui a caché son jeu en soutenant les démocrates d'abord, en ayant été plutôt discret lors de la première campagne de Donald Trump. Et à un moment, il soutient Donald Trump à tel point qu'il devient, il entre dans son gouvernement. A-t-il caché son jeu ou y a-t-il eu un véritable virage de la pensée de Musk?
Alors, un peu des deux. Déjà, il faut nuancer le fait qu'il était pour les démocrates. Il aime bien raconter ça aujourd'hui pour souligner, j'allais dire, sa transition vers le conservatisme. Mais il faut rappeler que dès 2003-2004, il donne aussi au président Bush Jr. pour sa réélection. Il a donné autant souvent aux républicains qu'aux démocrates. Comme beaucoup d'hommes d'affaires... Il essaye d'aller là où sont ses intérêts. Et donc, il soutient aussi souvent les candidats en place. Par exemple, il dit qu'il a soutenu Obama en 2012. Oui, mais c'était assez logique, surtout pour un homme d'affaires qui avait déjà des intérêts soutenus par l'État, de soutenir le président sortant. Donc, il faut nuancer. Ceci posé, à partir de 2020, il y a une véritable bascule qui effectivement s'opère, avec en particulier la transition de genre de son fils, qui devient Vivienne, et qu'il vit extrêmement mal. Il en veut beaucoup à la Californie, à l'État progressiste de Californie à ce moment-là. Donc, il y a un peu des deux.
Alors, on sait que le levier, peut-être le levier principal, enfin, l'un des leviers principaux de Donald Trump pour sa victoire, c'était l'anti-wokisme. Il a senti, Musk, qu'il y avait un créneau là qui lui plaisait en fonction de sa vie personnelle.
Oui, alors là, il y a vraiment une convergence, effectivement. Il faut rappeler les mots extrêmement durs que Elon Musk, qui a vraiment renié son enfant, hein, c'est quand même, ça va très loin, a employé contre ce qu'il appelle le virus mortel du wokisme, qui pour lui est un péril pour la civilisation. Et il avait trouvé dans un premier temps le candidat DeSantis, le gouverneur de Floride, qu'il a soutenu dans un premier temps dans la primaire républicaine. Bon, mais comme DeSantis s'est fait massacrer par Donald Trump dans la primaire interne républicaine, il a fini par se rallier à Trump. Mais dès le début, le choix de DeSantis puis le choix de Trump, c'est effectivement le choix de la lutte contre ce qu'il appelle le wokisme, qui selon lui affaiblit l'humanité. Il a trouvé en Trump vraiment le bélier idéal pour détruire ce qu'il considère vraiment comme un virus.
Alors, on l'a longtemps qualifié d'excentrique. Bon, finalement, il est un patron médiatique comme l'Amérique les aime. Hein. On peut penser à Steve Jobs, notamment. Et sûrement grâce à ses succès comme SpaceX ou Tesla, il est devenu une star. Donc, j'allais dire, comme les autres du numérique, mais peut-être quand même plus que les autres, qu'est-ce qui le différencie des Steve Jobs et compagnie?
Alors, ce qui le différencie, on dirait dans un premier temps que ce qui l'a différencié en particulier de ses anciens collègues de chez PayPal comme Peter Thiel ou Sachs, qui eux se sont politisés très vite, c'est que lui justement pendant longtemps, bon, il n'était pas très politisé, il se tenait un peu à l'écart de la vie publique, de la vie politique, ça ne l'intéressait pas, il était plutôt sur le registre vraiment de l'entrepreneur original, passionné de conquête spatiale, et donc il est venu vraiment à la politique, j'allais dire sur le tard. Donc c'est ça qui l'a différencié. Par rapport à un Steve Jobs, était vraiment nourri de la contre-culture des années 1970, de la contre-culture californienne. Musk, il n'est pas du tout dans le même univers, j'allais dire, idéologique. Musk est convaincu que le monde doit être dominé par des entrepreneurs géniaux qui doivent en quelque sorte conduire une humanité qui ne saurait pas très bien où aller. En cela, d'ailleurs, il est intéressant de rappeler que son grand-père maternel s'était fait connaître au Canada dans les années 30 en menant un mouvement qui visait à remplacer les élus par des technocrates scientifiques plus intelligents que la moyenne. Et on voit donc qu'il y a eu un peu la transmission familiale de cette notion qu'aujourd'hui Musk met en application.
Alors parlons quand même surtout du Covid. Est-ce que c'est là qu'intervient un virage important ou du moins le rapprochement idéologique avec les Républicains et Donald Trump?
Alors oui, effectivement, là c'est même plutôt la rupture avec les démocrates, parce que ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que d'une part, Musk a trouvé que les obligations imposées par les États étaient des atteintes à la liberté. Il a toujours eu cette conviction qu'on doit laisser les entrepreneurs absolument libres, on ne doit pas les entraver, et il trouvait que tout ce qui était confinement, port du masque obligatoire, c'était insupportable. Et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'il a aussitôt quitté, au moment du Covid, la Californie démocrate progressiste pour le Texas républicain, où là, on n'ennuie pas les entrepreneurs, et où, de manière d'ailleurs assez intéressante, il est aujourd'hui en train de construire une sorte d'utopie, de ville utopique au Texas, où sont réunies toutes ces entreprises. Mais d'autre part, le Covid, c'est aussi une rupture beaucoup plus économique, beaucoup plus, j'allais dire, pragmatique. C'est le moment où Biden va prendre le pouvoir en 2021, et Biden veut imposer que les subsides de l'État pour les voitures électriques aillent à des entreprises où les syndicats sont présents. Or, Musk s'est toujours battu contre la présence des syndicats qu'il considère comme des parasites dans ses entreprises. Et donc, à ce moment-là, il se fâche avec Biden et l'administration Biden parce qu'il dit « on ne m'invite pas parce que je suis contre les syndicats ». Eh bien moi, je suis contre les syndicats, je défends le modèle de l'entreprise libre. Et là, c'est vraiment une rupture avec les démocrates.
France Inter. Affaires sensibles.
Corentin Salin, parlons de l'influence d'Elon Musk, car c'est ce qu'il y a de plus important, finalement. À commencer par l'espace. On a l'impression qu'une entreprise privée définit maintenant la politique spatiale américaine.
Oui, c'est tout à fait juste. Et en fait, un fournisseur devient le maître de son commanditaire.
Oui,
en fait, c'est
absolument
ça qui est très original. En effet, il faut rappeler que SpaceX est devenu un des principaux prestataires de la NASA au fur et à mesure des années, en particulier en matière de lanceurs. Et ce qui s'est passé, était-ce peut-être un des buts d'Elon Musk, c'est depuis le retour de Donald Trump au pouvoir, il a imposé à la tête de la NASA un de ses hommes, un homme à lui, une personne à lui. Pourquoi ? Parce que Musk n'était pas en accord avec la NASA sur l'objectif premier de la conquête spatiale. On sait que jusqu'à présent, l'objectif prioritaire, c'était de retourner sur la Lune. Pour Musk, sur la Lune, ça n'est pas assez ambitieux, ce n'est pas du tout ce qu'il veut, puisque lui, son projet,
c'est Mars.
Et donc, d'avoir à la tête de la NASA quelqu'un qui est maintenant totalement aligné avec lui, ça pourrait lui permettre justement d'obtenir ce qu'il veut, c'est-à-dire que la NASA pivote vers un projet de conquête de Mars qui est vraiment le rêve ultime d'Elon Musk.
Alors, concernant l'influence, il y a aussi le réseau X, évidemment, avec un algorithme qui définit la ligne éditoriale, et on l'a tous éprouvé. Hein.
Absolument. En fait, en transformant Twitter en X, et ça a été sans doute vraiment sa signature d'entrée dans la politique active, c'est-à-dire que il a racheté ce réseau qui avait été mis en cause par les conservateurs américains pour avoir soi-disant censuré Trump et ses partisans à cause des désinformations propagées au moment de l'insurrection du Capitole. Eh bien, Musk l'a racheté et a montré aussi patte blanche par rapport aux conservateurs et aux nationaux conservateurs de Trump en leur disant, regardez, je rachète cette entreprise que vous considériez comme un censeur et je la livre à la liberté d'expression absolue que vous souhaitez. Il a rétabli le compte de grands désinformateurs, de personnes qui racontent à longueur de journée des sornettes, qui peuvent s'acheter maintenant une certification sur X. Et c'était une manière aussi pour Elon Musk, et il ne s'en est pas privé pendant l'élection, de pouvoir diffuser, en modifiant l'algorithme, des désinformations, des éléments de désinformation favorisant le camp Trump. Donc ça a été vraiment le rachat d'un média qui construit le débat public, qui construit l'opinion, et qui l'a formaté au goût des nationaux conservateurs trumpistes.
Que pense la classe politique américaine, tout bord confondu, hein, de ses pouvoirs étendus pour un homme, Musk en l'occurrence, qui a de nombreux conflits d'intérêts, on l'a vu. C'est quoi ce ministère, ce Doge, le ministère des mains libres en fait?
Alors, le Doge n'est pas, contrairement à ce qu'a même répété Musk, n'est pas officiellement un ministère.
Oui, mais enfin bon,
voilà.
On a compris.
Il a pris rang de ministre parce qu'il a participé à plusieurs réunions du cabinet, l'équivalent de notre gouvernement, du cabinet présidentiel, où on a vu ces scènes ahurissantes. On avait l'impression que Musk faisait la leçon au ministre de Trump. Alors précisément, il a eu tendance à contrarier depuis janvier 2025 beaucoup de politiques, y compris républicains, et y compris dans l'administration de Trump. Par exemple, quand il est venu voir les ministres du cabinet de Trump en leur disant « Bon, dans votre administration, c'est moi qui vais vous expliquer qui vous devez virer et comment vous allez le faire ». Et certains ministres, on peut penser par exemple au ministre des Affaires étrangères, au secrétaire d'État, comme on dit aux États-Unis, Rubio, il a dit « Non, je vais bien sûr aussi dégraisser mon administration, mais je vais le faire à ma manière, je n'ai pas besoin d'Elon Musk ». Donc on voit qu'il contrarie parce qu'il empiète complètement sur le fonctionnement politico-bureaucratique habituel, y compris chez les Républicains.
Sauf qu'il y a cette affaire de droits de douane, taxes douanières. Est-ce qu'on peut dire que Elon Musk, touché également dans son activité économique, et comme je le disais, va peut-être être l'arroseur arrosé?
Oui, c'est tout à fait possible, mais ce n'est pas, en fait, si on réfléchit bien, ce n'est pas le premier accroc idéologique. Mais ce qui prouve bien que Musk, il est ni démocrate ni républicain, il est surtout musquin, surtout pour les affaires. Le premier accroc, c'était l'immigration. Musk avait dit non, il faut pas empêcher les immigrés à haut potentiel, qu'il emploie en particulier dans ses entreprises de haute technologie, de venir aux États-Unis. Or, les Trumpistes les plus radicaux ont dit à Musk, de quoi tu te mêles? Bien sûr que si, il faut zéro immigration, y compris pour les immigrants les plus qualifiés. Et on retrouve la même problématique aujourd'hui sur le libre-échange. Musk, évidemment, a besoin du libre-échange, en particulier pour les chaînes de production de ces lanceurs spatiaux, etc., qui peuvent être dans différents pays. Et il se retrouve aujourd'hui avec le protectionnisme le plus borné, le plus résolu de Trump. Et ça ne peut pas aller pour ses affaires. Et effectivement, on voit là que du point de vue idéologique, il n'est pas parfaitement aligné avec le national-populisme trumpien.
Bien, eh ben, à suivre, hein, puisqu'on est dans l'actualité là pour le coup. Merci infiniment, Corentin Salin. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Elon Musk, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Juliette Petit.